C'est ce qu'on entend là, hein, la profondeur du silence. Voilà, aujourd'hui c'est le vent. Hein. Donc effectivement, aujourd'hui c'est le son du vent dans les branches. Alors dans les aiguilles d'épicéa, ça rend un certain son. Puis là on a des arbres dénudés, alors ça rend un autre son. Alors par temps plus calme, on peut entendre encore ce qui se passe au loin. On a l'impression qu'on va toucher l'horizon. Et ici précisément, au col, devant ce panorama, il y a quelque chose qui se passe avec les arbres qui sont là-bas, sur la crête en face. Je pense qu'un espace calme, il n'y a plus de limite, je crois. C'est comme ça que je ressens l'espace sonore ici, précisément. Le calme, j'ai l'impression, me relie à tout, tout ce qui est autour, tout le panorama. C'est une forme de sécurité aussi, hein, le silence. Et on peut se tourner vers l'intérieur, on peut libérer quelque chose en nous. Je suis Rémi Carité, donc je suis natif des Vosges, je pense que c'est intéressant, et je suis artiste. Je travaille avec la photographie, la vidéo, l'écriture. Et puis maintenant, aujourd'hui, je suis très impliqué dans l'association qui s'est montée pour préserver ce petit bout de territoire, qui est un tout petit bout de territoire, mais qui, à nos yeux, évidemment, a une grande valeur. Devant nous, c'est un trou, parce que ça, c'est l'ancienne carrière devant nous. On voit bien qu'il y a un vide, un trou, parce que tout ce massif, il a été exploité depuis plus d'un siècle, des carrières artisanales. Ils faisaient tout à la main, ou presque. Hein. Alors, il y a le trou, c'est assez intéressant. Et après, de nouveau, on a les prairies entre les trois sommets du coin, le haut du roc, là en face, c'est la tête de Sceaux. Et puis au loin, ben, on devine la vallée. Et après, tout au bout, c'est une forêt. On pourrait dire une forêt qui est à l'envers, c'est-à-dire la face nord. Hein, mais bon, on ne dit pas ça chez nous dans les Vosges. Bon. Et en tout cas, une montagne abrupte est couverte de forêt. Et c'est la forêt du géant. Et qui ferme l'horizon. Puis après, quand on monte plus haut, on verra, on peut apercevoir les sommets vosgiens. Mais ça, c'est dans notre dos. La particularité de cet endroit, c'est qu'il est préservé. Il est habité, mais en même temps, il est préservé. Alors, il est très peu habité. Essentiellement, des fermes qui ont un souci de conserver quelque chose, en tout cas, qui travaillent vraiment dans le paysage. Je pense qu'ils ont vraiment un souci du paysage. Et là, on a une forêt qui est intéressante parce que, du fait de cette carrière, qui devrait normalement s'étendre jusque là où on est, l'ONF a arrêté d'exploiter ce petit bout de forêt. Du coup, ça conserve un caractère un peu plus naturel que certaines forêts qui sont exploitées pour le bois et dans lesquelles on voit souvent des monocultures d'épicéas. Ici, on a quand même un mélange d'essences qui est intéressant. On a 5-6 essences différentes. Sapin, épicéa, et puis érable, hêtre, et quelques alisiers blancs ou alisiers sorbiers des oiseleurs. Le Conservatoire du Silence, on pourrait dire que c'est un projet culturel qui veut faire comprendre et faire parler du silence. Alors, le Conservatoire du Silence, c'est un bruit qui court, parce que pour l'instant, On a déjà organisé quelques actions en lien avec le silence, en lien avec ce site et ce qu'on peut entendre quand on prête l'oreille. Et l'objectif final, ça serait de réussir à faire classer ce site pour justement sa qualité acoustique. Parce qu'on a déjà dans les Vosges des zones de quiétude qui sont mises en place par le parc des ballons des Vosges. Et ces zones de quiétude, c'est pour la faune. Alors c'est vraiment important, évidemment. Mais je crois qu'ici, la dimension qu'on voudrait ajouter, c'est vraiment cette dimension aussi de l'humain. C'est-à-dire que nous aussi, en tant qu'humains, on a besoin de silence, on a besoin de zones de calme. Le projet veut explorer un peu toutes les dimensions du silence. Donc pour moi, il y a des dimensions écologiques, parce que la faune a besoin du silence. Mais il y a aussi des dimensions de santé publique, quelque part, parce qu'on connaît maintenant, on commence à identifier tous les méfaits du bruit sur les humains, sur nous, quand on est exposé dans les villes, etc., à des niveaux sonores trop élevés. Donc il y a quand même un enjeu aussi à ces niveaux-là. Et puis je pense qu'il y a aussi une portée philosophique et même, à un moment donné, une portée spirituelle. Le projet de carrière cristallise le fait que notre association fasse tout pour, au minimum, si ce projet de carrière doit avoir lieu, au minimum que l'entreprise respecte les règles. Alors pour l'instant, on a gagné au tribunal parce que le tribunal a vu et a statué sur le fait que les règles n'étaient pas respectées. Donc on fait remarquer qu'en 20 ans, je crois que tout le monde a pris conscience qu'il y avait des problèmes au niveau climatique, au niveau de la biodiversité, les risques d'incendie, etc., qu'il y a des enjeux qui demandent, si on veut ouvrir un site industriel, qui demandent d'être pris en compte, les enjeux d'aujourd'hui. Donc le Conservatoire du silence est venu, effectivement, pour amplifier en fait cette action associative, et avec aussi en fait l'idée d'amener quelque chose de positif, au sens où on se bat et on défend le silence, on défend quelque chose qui existe ici, quelque chose qui est menacé à l'échelle du massif, par le bruit, c'est souvent des bruits mécaniques, mais ça peut être aussi des bruits de promeneurs, enfin, et que... Ça c'est sympa, un jogger qui passe. Lui au moins il fait pas trop de bruit. Donc l'idéal serait de réussir à faire classer ce site au titre du silence. Donc là, évidemment, on voit que ça exclut de fait un projet de carrière industrielle et de concassage sur le site, même si c'est des campagnes ponctuelles. Et de la même manière, on est ici de plus en plus en prise au problème des sports mécaniques, des passages de compétitions de trial ou d'enduro. Donc, de fait, un conservatoire du silence demande aussi de la modération du côté des sports mécaniques. Cet endroit mérite d'être conservé pour sa qualité de silence, en plus de sa qualité de biodiversité qui est réelle dans l'espace naturel sensible qui se trouve juste en dessous. Il y a même une partie de la carrière du nouveau projet de réouverture, une partie qui est dans l'espace naturel sensible, en fait. Donc là, c'est une vraie contradiction. Voilà. Donc ça, c'est du point de vue de la biodiversité. Cette notion de silence, je crois que c'est un fil qu'on peut tirer et dérouler et qui peut concerner beaucoup d'aspects de dysfonctionnement de nos sociétés. Pour résumer, on est un peu dans la vitesse, dans la croissance, dans la productivité, etc. Et la notion de silence peut s'opposer à tous ces dysfonctionnements en fait de nos sociétés.
Est-ce que s'opposer, c'est pas faire du bruit ?
Ah ben de toute façon, le conservatoire du silence, oui, c'est paradoxal. Parce que des fois, on me dit, mais oui, mais le silence, c'est la mort. Alors, on ne va pas défendre un silence de mort. Donc, évidemment, mais on n'a pas beaucoup de mots, en vrai, en français, pour parler de ça. Un endroit où on peut s'écouter, un endroit où on peut être en paix, un endroit où on peut se reposer simplement du bruit du monde. Il n'y a pas beaucoup de mots. Hein. Quiétude, calme, silence. Ce que je trouve intéressant, c'est que justement, cet intitulé conservateur du silence, en fait, il pose des questions. Mais il ne veut pas répondre aux questions. Ou en tout cas, il y répond par petites touches et par petits pas. Mais l'intitulé lui-même, par contre, il questionne. Ça permet de lancer un débat. Le choix du mot conservatoire, je pense que c'est lié... Il y a l'idée de conserver qui existe déjà ici. À un moment donné, j'avais pensé à observatoire du silence, mais il n'y a plus cette notion de conservation, de préservation. Il y a peut-être aussi le conservatoire de musique, c'est aussi une résonance avec ça, parce qu'un conservatoire, on fait de la musique, on travaille le son, on écoute. Il y a une musicalité autour de nous, dans l'espace sonore qui nous entoure, dans tous ces bruissements. Il y a une vraie musicalité. Donc, on attrape un petit bout de ça aussi, avec le mot conservatoire. Là, dès qu'on arrive là au-dessus, là, ouais. Hop, on voit la petite cabane qui est là-bas. Ces deux arbres là sont complètement incroyables. Ce sont deux épicéas et il est triple. Ils se partagent là à 2 mètres de haut et les deux sont assez extraordinaires quoi. Le premier, j'ai jamais vu une telle masse de bois comme ça couché et puis après un tronc qui en sort, c'est assez incroyable. Et puis là, juste derrière nous, on a aussi et on en verra là-bas. Des arbres qui sont avec des branches qui font comme des baïonnettes. En fait, c'est des branches, elles partent à l'horizontale et puis elles se redressent. Et ça forme un arbre à côté du tronc principal. Il y a un deuxième tronc, mais qui est greffé sur le premier. Allons voir plus loin. Ouais. Moi, je les appelle des arbres reliques parce qu'ils ont plus de 100 ans et ils ont poussé naturellement, ils ne sont pas exploités pour le bois, enfin l'ONF ça n'est pas occupé, donc ça crée un endroit comme ça qui a un vrai caractère sauvage, quelque chose de naturel. Hein. Et là encore on retrouve les traces du trial parce que par exemple ils ont coupé ces branches. Celui-là, la grosse branche là qui sort et qui repart tout droite. Là au-dessus c'est une réitération. C'est comme un arbre qui pousse sur un autre arbre. Et pour le trial, ils ont coupé les branches basses. Parce qu'ils vont, ils viennent, le parcours passe sur ces rochers. Alors ils ont dégagé tous les noisetiers qui étaient là. Et puis il n'y a pas si longtemps, il était debout, celui-là. Alors ça, c'était comme un arbre hôtel. C'est-à-dire qu'un vieux épicéa complètement sec sur pied, hein, perforé d'un tas de trous d'insectes et d'oiseaux qui nichaient dedans. Et il est tombé il y a vraiment très peu de temps.
On fait des fois avec Rémi des bivouacs et on pérégrine, tu vois, on fait, je sais pas, peut-être 3 km à regarder, il y a une mousse là, tiens, là il y a une plume, et puis là il y a ça, puis là il y a telle ambiance. Et en fait, c'est ça qui est génial, en fait, c'est que tu peux. Alors, c'est même pas se perdre parce qu'on est quand même dans des massifs qui sont quand même relativement à taille humaine, même si des fois tu te soupçonnes pas que il y a une telle crevasse qui va t'emmener beaucoup plus loin et que tu vas devoir marcher beaucoup plus. Mais moi j'adore ces moments hors du temps avec Rémi, quoi. Ça se compte sur les doigts d'une main quand t'entends ce genre d'endroit. T'as toujours un fond de bruit parasite, que ce soit une route, que ce soit, comme je le disais, donc les avions, les choses comme ça, ou une tronçonneuse. Moi, je suis Justine Fleureau-Mougel. Je suis... productrice de plantes aromatiques et médicinales, on va dire à 1 km à vol d'oiseau d'ici, donc sur le versant est, dira-t-on. Et puis, du coup, pêche, l'association J'y suis parce qu'on a grave flippé quand on a entendu le projet de la graniterie, en fait, de réouvrir et d'étendre cette carrière qui est à l'arrêt depuis déjà au moins une vingtaine d'années, quoi. Donc on s'est un peu mobilisé autour de la montagne, avec cette sensibilité, on va dire, pour notre territoire et l'envie de le préserver tel qu'il est et sans trop de bruit. J'adore ce temps-là parce que t'as personne dehors, t'as pas de bruit. Et t'as la pluie, bon si t'as des bruits automatiquement, mais si tu veux c'est que de la nature, t'entends pas parce que le vent va te le couper, t'entends pas les voitures qui passent dans la vallée, t'entends pas les coups de fusil qu'il y a de l'autre côté parce que là il y a la chasse aujourd'hui, t'entends pas ce truc-là. Donc si tu veux ça t'isole et à la fois c'est ce dont on a besoin et c'est surtout aussi en opposition de ce qui du projet de la graniterie qui serait de faire du concassage notamment juste à côté quoi. Et on se dit putain mais c'est un endroit qui est quand même super préservé en fait en termes de bruit et par son relief, par le fait qu'il y ait ces différentes alcôves dans les anciennes carrières quoi, et en fait ça te permet de t'isoler de ça et on s'est dit que ce serait quand même vraiment trop bête que ce soit plus le cas parce que si on habite sur la montagne c'est pour avoir le calme, c'est pas pour avoir un hélico qui tourne toutes les 5 minutes, c'est pas pour avoir 3 avions qui passent à la douzaine, c'est pas pour avoir un bruit de concassage juste à côté de chez toi, alors que t'as acheté une ferme justement pour être au calme, quoi, en fait. Quoi. C'est un peu ça le topo, quoi. C'est comme quand il y a de la neige. Oh, purée, qu'est-ce que j'aime bien quand il y a de la neige. Et c'était hyper intéressant d'y venir sur ce site, justement, quand t'as de la neige, parce que du coup, t'as... J'ai toujours, depuis que je suis toute petite, adoré la neige, parce que ça étouffait les bruits. Tu vois. Et je savais... J'étais encore dans mon lit, hein. les volets fermés, je savais qu'il y avait neigé. Parce que les voitures, elles faisaient plus le même bruit. J'ai toujours eu un truc avec mes oreilles, tu vois. J'ai toujours, depuis toute petite, alors ça n'a rien à voir par rapport au côté naturel, mais tu vois, un écho particulier qui te fait penser que t'es dans tel endroit, ou voilà. Et typiquement, quand j'étais toute petite, je savais que mon grand-père, il arrivait à 300 mètres parce qu'en fait, j'entendais sa bagnole et que je connaissais exactement le bruit qu'elle faisait. Mais l'histoire de la neige, là, c'est... Waouh ! T'as qu'est-ce que... T'es bien dehors quand t'entends les voitures qui sont en mode assourdi. T'entends plus rien, ça fait... Un truc tout sourd, comme ça. Et ça, c'est moi un truc qui me plaît énormément, quoi. On raisonne toujours sur le côté visuel des choses. On va protéger telle espèce qui est visible à tel endroit et tout ça. Et en fait, on s'interroge jamais sur le côté sonore de la chose et ce côté quiétude, en fait... Animal d'une part, mais pas que, ce côté quiétude de l'humain aussi par ce biais de ce silence naturel. C'est un besoin de se recentrer, c'est un besoin vital, je pense. Quand je suis trop dans le bruit, j'aurais jamais pu habiter en ville, quoi. C'est trop de sollicitations et je pense que tu t'épuises avec tout ça. Et ces endroits-là, c'est toujours des endroits un peu de ressources, quoi. Donc là, il y a des ambiances qui sont quand même très particulières avec les gros blocs de granit. Avec tous les animaux qui peuvent aussi se planter dedans, soit pour nicher, soit pour s'abriter, comme en ce moment, parce que là, c'est juste pas rigolo, avec le temps qu'on a. Et puis c'est des mousses, c'est des fougères, c'est des arbres qui ont réussi à pousser là-dedans, et tu te demandes un peu comment ils tiennent, hein, des fois, parce qu'il y a quand même d'énormes épicéas. J'en ai vu en montant, là, d'ailleurs, par le chemin. Tu te dis « Waouh !» sont bien accrochés. La carotte, elle doit être bien profonde dans la... Elle a réussi à fractionner certainement la roche, hein, parce qu'on est quand même sur un bon tapis de roche ici, quoi.
Quand je suis tout seul en pleine nature et que je m'ouvre à l'écoute, je me sens pas du tout tout seul. Au contraire, je me sens hyper attaché, hyper en lien, quoi. Et je revendique l'idée de travailler ça. C'est de s'entraîner, de s'exercer à construire des attachements aux non-humains. Voilà. Justement en expliquant que c'est quand même la meilleure façon de ne pas se sentir seul, quoi. Dès qu'on s'ouvre à l'écoute, on comprend assez vite que l'humain s'est inspiré de ça pour venir enrichir l'univers sonore, quoi. C'est ce qui est apparu à l'oreille des hommes depuis qu'ils sont hommes. C'est cette musicalité-là, quoi. Donc... S'ouvrir à l'écoute, c'est revenir à une espèce d'origine anthropologique de la musique, quoi. comment, en tant qu'humain, on réfléchit pour ne pas nuire, mais enrichir. Je m'appelle Pierre Guida, je suis habitant du territoire dans lequel je suis né, dans une vallée pas loin d'ici. J'exerce une activité de travailleur indépendant comme accompagnateur en montagne. Je suis particulièrement intéressé par ce qui est toujours dans un espèce d'interstice entre ce qu'on appelle encore, malheureusement pour moi, la nature et le côté plus culturel de la place de l'homme. Ce champ-là, ouvert par des lectures de Descola et compagnie, me font m'intéresser à plein de petits sujets où je pense que ces enjeux-là sont bien placés. Et c'est vraiment pour moi le cas ici. C'est pour ça que je me suis rapproché un petit peu de l'association et que le lieu m'intéresse tout particulièrement, quoi. J'ai un petit point de divergence avec Rémi, puisque ce n'est pas un territoire de silence. Pour moi, c'est un territoire d'écoute. Dans le silence, il y a quelque chose, moi, qui me gêne, dans le sens où je l'entends plutôt comme quelque chose qui est un espèce de silence intérieur, quelque chose plutôt un acte de où on se renferme. Et le terme écoute, moi, je l'apprécie beaucoup plus parce que pour moi, l'écoute, c'est quelque chose qui ouvre sur l'extérieur. Quand on est à l'écoute, on est ouvert. Les mains, les yeux, les oreilles, il y a... Ah, le silence, c'est plutôt... Je me renferme un peu dans ma bulle. Je veux justement qu'il n'y ait plus rien autour de moi, quoi. Et voilà. Et moi, je pense qu'on a besoin d'ouverture plus que de fermeture. Là, je vous écoute et j'entends quand même, c'est-à-dire que votre voix, notre voix, nos échanges, bah, sont complétés par le bruit des gouttes qui tombent. C'est pas un silence, c'est jamais un silence absolu, ça n'existe d'ailleurs pas, le silence absolu, quoi. Qu'est-ce qui peut être harmonieux? Qu'est-ce qui peut venir trouver sa place? Et c'est ça qui m'intéresse toujours, cette manière de cohabiter, pour paraphraser des termes de Morisot, de construire des interdépendances ou de prendre en compte ces interdépendances, quoi. Nature, culture, silence, son. Moi, je ne crois pas à des séparations comme ça. Que ce soit dans les paysages sonores, ici, si y a, voilà, on entend les gouttes d'eau qui tombent, même si ça se calme un petit peu. Et puis, on entend quand même les voix. Ce n'est pas incompatible. On a ici un paysage assez caractéristique des Vosges, dans ce sens où le paysage est façonné par l'homme. Et donc, lire le paysage, c'est justement se donner l'occasion de dépasser ce clivage nature-culture, quoi. Et ici, bah, et voilà, les enjeux sont magnifiques pour organiser cette réflexion-là, puisqu'on a des carrières de granit, un matériel local, on va dire biosourcé, dont les gens qui souhaitent son extraction sont labellisés par le parc naturel du Ballon des Vosges. Donc on voit toute la symbolique qui est derrière. On a des prairies qui sont, pour certaines, en état de conservation avec le conservatoire des espaces naturels. On a la place de la forêt qui a complètement évolué au fil des années. C'est vraiment une zone qui est reconnue comme une zone de ressourcement pour les gens des vallées aux alentours. Donc on voit bien que ça cristallise en fin de compte... plein de gens autour, le parc, les communes, les habitants, le tourisme, tout ça. Et ce qui est appelé, c'est bah, comment on invente le monde de demain à partir de ce qui existe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut, quoi. Et je pense qu'il faut être dans des choses très locales comme ça pour pouvoir se poser vraiment des questions qui portent, qui sont beaucoup plus larges que ça, quoi. On devrait avoir que des gens autour de la table qui discutent vraiment de ça, quoi.
Oui. Y compris le carrier, tu veux dire.
Bah, le carrier, le parc,
les ouvriers,
le parc, conservatoire, les habitants. Oui, enfin, oui, oui. Parce qu'il y a l'économie, il faut le prendre en compte aussi. Oui, enfin, voilà, donc c'est pas rien, quoi. Mmh.
Avec la pluie qui tombe, on va trouver un petit peu, on va aller s'abriter dans la cabane du Pecha, qui est une cabane qui avait été construite il y a une vingtaine d'années sur le site d'une ancienne carrière.
Ah, t'as fait du thé, l'absence au champ ?
Ouais.
Bah, moi, je suis au...
Passe-le là-bas.
Oui, merci.
Retour du bouton lundi. Et une température de dingue, je suis rentré tard et...
Il faisait pas froid.
Il faisait 16 degrés à Épinal à minuit.
Ça, c'est pas... Ça, c'est flippant.
C'est une cabane comme on faisait dans le temps. Avec des bois en rondin. Un peu vermoulu parce que bah voilà, je pense que ça fait au moins une quarantaine d'années qu'elle est debout. C'est ce genre de cabane qui font un peu rêver. Moi, ça me va, hein, tu me laisses passer une journée ici, à regarder ce qui se passe, grignoter, ramasser trois herbes pour bricoler, pour manger, pour... Je rêve que de ça, je rêve que de partir dans un côté ermite.
C'était le Conservatoire du Silence, premier épisode. Avec Rémi Carité, Justine Fleureau et Pierre Guida. Réalisation Aurélien Frances, une production de Silence Podcast.